La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info, l'émission débat que vous propose Radio Présence chaque semaine. L'actualité nationale est très dense ces temps-ci, l'actualité internationale aussi, et elle concerne la France. On en parle avec mes trois invités. Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du Rassemblement démocratique et social européen. François Briançon, conseiller municipal de Toulouse, premier secrétaire de la Fédération du PS31, membre du bureau national du Parti Socialiste. Et enfin Pierre Esplugas, professeur de droit public, adjoint maire de Toulouse, membre du bureau de Toulouse Métropole et membre du Parti Les Républicains. Bienvenue aussi à tous les trois. Alors, enfin, pour l'instant, vous êtes deux, puisque Pierre Esplugas m'a signalé qu'il serait un peu en retard. Il devra arriver d'ici peut-être un petit quart d'heure. On va commencer sans lui. Alors, le sujet qui occupe la une de l'actualité politique depuis mardi, évidemment, c'est le discours de politique générale prononcé par Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Dans une ambiance assez houleuse comme l'on pouvait s'y attendre, le Premier ministre y a notamment affirmé sa volonté de réduire les dépenses publiques et de mieux maîtriser l'immigration. Il a aussi évoqué la nécessité de simplifier les démarches administratives et certaines normes en France. Il y a eu d'autres annonces et nous allons revenir ensemble sur certaines d'entre elles. Mais de manière générale, qu'avez-vous pensé du discours du Premier ministre sur le fond et la forme? Et qu'en avez-vous retenu pour l'essentiel? C'est Françoise Laborde qui commence.
Merci, bonsoir. Le fond, on va en parler, je pense, toute l'émission. La forme, bon, c'est vrai qu'il a été dit qu'il était vieille école, hein, puisque on a dit old school, mais bon, on va utiliser la langue française. C'est vrai que c'était un petit père tranquille. Alors, bon, ben, c'est peut-être dû à, on va pas parler d'âge, mais à son expérience, à son ancienneté, à son passage dans différents ministères ou autres. Peut-être aussi qu'il s'était dit, en effet, qu'il y aurait un certain brouhaha et qu'il avait intérêt à être très calme, posé. C'en était presque un peu monocorde parce que ça a quand même duré une heure et demie. Donc il a fait un petit peu d'humour de temps en temps, mon cher François, il a parlé des lignes rouges, il a essayé de faire rire, il a fait rire, bon. Mais c'est vrai que, bon voilà, il faut pas s'attacher au contenant, vaut mieux s'attacher au contenu, mais voilà, je pense qu'il s'était préparé à être d'un calme olympien, et le petit côté vieille école, c'était, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas les journalistes l'ont fait remarquer, son petit dossier, qui était un dossier de pochette transparente que tu utilises pour garder des factures ou des trucs, mais pas dans un discours. Je le voyais, je l'imaginais, je me suis fait sourire, ranger ses petites feuilles dans son dossier, parce que c'était quand même au moins 30 pages ou j'en sais rien, et il tournait tranquillement. Bon. Voilà, ça s'est posé, c'est un peu vieux jeu, un peu, mais bon, bah peut-être que ça lui a donné, je pense que ça lui a donné aussi une certaine contenance, parce que bon, je l'ai regardé, il avait son stylo à la main qu'il manipulait, et il tournicotait les pages du fameux dossier. Donc je me suis dit quand même qu'il n'était pas si à l'aise qu'il voulait le laisser paraître, parce que bah, personne n'en a voulu de ce poste. Il a dit oui. Est-ce qu'il regrette déjà? Je n'en sais rien. Mais voilà, donc ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je ne sais pas, on en parlera après, mais on peut déjà dire quelques mots. Il est évident que c'est un héritage, on va rester poli, hein, de, voilà. Et qu'il a peut-être découvert des choses, comme le budget et surtout la dette. Parce que d'un côté, Bruno Le Maire s'en va très fier de lui, en disant, mes chers amis, mes chers Français, tout ne va pas si mal. Et lui, d'entrée, il nous pose que ça va plutôt très mal.
Et peut-être plus mal encore que ce que l'on croyait.
Voilà. Donc, il l'a posé. Il se veut transparent. Bon, la transparence, ça fait tellement d'années qu'on entend parler de transparence qu'on ne sait plus trop qui croire. Mais donc, si ce qu'il dit est vrai, je vois pourquoi ce serait faux. On n'est pas bien. Donc, voilà, il a posé le décor, comme on dit. Et il va falloir trouver les sous. Donc, tout son laïus, ça a été d'un côté, je remercie les uns, je remercie les autres, parce que par corps de métier, bah, voilà. Il faut faire moins ou aussi bien avec moins, ça on l'a entendu. Il a cité tout le monde pour pas faire de mal, donc De Gaulle, Mendès France, Rocard, et vas-y, tout le monde a eu sa petite couche de gentillesse. Et puis juste derrière, il disait oui mais, oui mais, oui mais. Bon, et moi-même, ancienne parlementaire, je me dis qu'il n'a pas tout à fait tort, mais on va aller chercher où ses sous. Et c'est peut-être là un petit peu notre discussion.
Ce que je retiens, c'est que vous n'êtes pas rassuré, en tout cas.
Ah non, parce que la confiance a ses limites. Ça fait tellement d'années qu'on arrive quand même à faire confiance. Ou même moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Bruno Le Maire. C'était pas ma couleur, c'était pas... Mais enfin, il a quand même fait quelques... Il a quand même soutenu certains dossiers, ne serait-ce que l'aéroport. Enfin, moi, voilà. Moi, j'étais pas à la commission des finances. Donc, je suis pas rentrée au fond des peut-être éventuelles cachotteries ou... sur certains sujets ou certains dossiers, je l'ai trouvé à la hauteur. Donc aujourd'hui, on se dit, mais à qui on peut faire confiance ?
Oui. François Briançon, vous, qu'est-ce que vous avez retenu du discours de politique générale de Michel Barnier ? Alors sur la forme, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Françoise Laborde ?
Oui, bien sûr, je veux bien. D'abord, bonsoir Eric, merci pour l'invitation.
Et puis avec bonsoir. Plaisir.
Bonsoir à tous vos éditrices et vos auditeurs. Bon, moi, je m'intéresse peu à la forme des discours politiques, ce qui est important, surtout quand il s'agit d'un Premier ministre qui, dans des circonstances politiques exceptionnelles, s'adresse à la représentation nationale. C'est surtout le fond. Je dirais que, malgré tout, une remarque, je préfère à la limite l'humilité du nouveau Premier ministre à l'arrogance de l'ancien, quoi. Et donc, ça nous change. Bon, est-ce que pour autant... on va aller vers une politique qui va plus correspondre aux demandes des Français qu'elles ont exprimées, on peut en douter. Alors, bon, y a les apparences, beaucoup de commentateurs se sont branchés là-dessus, mais ce qui est très important, c'est effectivement, Françoise le disait, le fond du sujet. Est-ce que c'est un style ou est-ce que c'est une stratégie ? Est-ce qu'il y a un style Barnier ou est-ce qu'il y a une stratégie ? Moi, je pense qu'il y a une stratégie. Alors l'homme, il est tel qu'il est, mais au-delà de ça, il y a une stratégie, c'est-à-dire que finalement, sur qui il peut réellement s'appuyer dans cette Assemblée nationale, si ce n'est sur un petit nombre de parlementaires issus des Républicains, qui sont ceux qui ont rejeté le vote massif des Français pour le Front Républicain. On voit même d'ailleurs que dans cette majorité relative qui s'est exprimée, même les macronistes, on parlait hors antenne tout à l'heure, du petit débat entre lui et Gabriel Attal. On voit bien que, et puis on l'a vu ces dernières heures, qu'effectivement, il y a des différences et que le soutien, il n'est pas aussi affirmé qu'on voudrait bien le croire. Alors, c'est la vraie question, en fait. Qui soutient vraiment Michel Barnier ? Alors, on ne sait pas qui le soutient. Par contre, on sait qui le surveille. Parce que le surveillant général du Rassemblement national, elle a l'air d'essayer d'imposer un certain nombre de choses. Et en fait, on a un Premier ministre qui aujourd'hui n'a pas de réelle légitimité. Alors, il a la légitimité de son expérience et de sa longue carrière, ça c'est évident. Mais il faut rappeler qu'il s'est opposé au Front Républicain et il est là que d'une certaine façon pour justifier le discours présidentiel qui veut ne pas tenir compte de la volonté de changement des électeurs. Donc voilà, donc, moi je... T'as fait clair, je n'attendais pas grand-chose. De ce point de vue-là, je ne suis pas déçu.
Alors, si on rentre un peu dans le détail de ce qu'il a annoncé, on va commencer par le sujet que vous souleviez, Françoise Laborde, celui du déficit public, des dépenses publiques. Que vous ont inspiré les propositions qu'il a pu faire pour réduire ce déficit public, hein ? Lui, il veut le ramener à 5% dès l'année prochaine, ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, on est à beaucoup plus. Sans doute peut-être même supérieur à 6, on le saura bientôt, et il veut le ramener à 3% d'ici 2029. Bon, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus Premier ministre à ce moment-là, évidemment. Bon, il a parlé de... Alors, il veut faire la chasse aux doublons, la chasse aux fraudes. Aux fraudes, pardon. Aux fraudes aussi, sans doute. Et il a annoncé...
Ça, il va les subir.
Il a annoncé que tout le monde devrait participer au redressement collectif, et notamment les grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Il a parlé d'une contribution exceptionnelle pour les Français les plus fortunés. On a parlé aussi de ne plus indexer les retraites sur l'inflation, pendant quelques temps en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous semblent aller dans le bon sens, voire de bon sens ?
Alors, Je crois que le bon sens va être très difficile à extraire de tout cela. C'est pour ça qu'il a fait un catalogue. Par rapport aux retraités, mais par rapport à plein de personnes, vous avez une petite retraite ou vous avez une grosse retraite. Alors, où est-ce qu'on se situe, la petite et la grosse?
Ça, c'est toujours la question.
C'est toujours la question.
Après, il y a ce qu'on appelle le seuil de pauvreté.
Voilà. Donc, est-ce que les personnes qui ont une toute petite retraite vont valider, si je leur demande, voilà, de ne pas avoir une augmentation de 1,2%, puisque je crois que c'était ça qui était prévu, et d'attendre la prochaine mise à niveau en juillet? Bon, c'est un peu compliqué. On remonte le SMIC, donc ça, c'est très bien. Mais bon, ça amènera des charges supplémentaires aux entreprises, etc. Et d'un autre côté, on dit aux entreprises, bon, alors les riches, vous allez donner une contribution. Et les petites entreprises vont dire, bah oui, mais c'est toujours nous qui avons des charges supplémentaires, etc. Donc là, on y va à pas feutré. Et je ne sais pas comment il va pouvoir gérer ça. Moi, il y a un deuxième sujet sur l'argent par rapport aux Français. On parle toujours du français moyen, mais bon, du français, à qui on va dire, sur le budget de la sécurité sociale, la visite chez le médecin ne sera plus remboursée à 70%, mais à 60%. Donc, qui va payer? Ce sont les mutuelles. Les mutuelles, c'est qui? C'est nous. Enfin, pardon,
oui.
C'est toi, c'est moi. Et là, pareil, qui va pouvoir payer un supplément pour sa mutuelle? Donc, qui va encore trinquer?
Les plus petits.
Voilà. Donc, je suis... J'ai essayé de faire une liste un peu de ce qu'il avait dit. Bon, sur la fraude, bien sûr, on ne peut que dire, ben, allez-y et trouvez les fraudeurs. Sur les doublons, j'avoue que c'est quelque chose qui revient sur le tapis depuis... de nombreuses années.
Même les fraudes, c'est quelque chose dont on parle depuis
longtemps. Alors, c'est vrai qu'on a quand même trouvé quelques millions, je ne sais pas si on est allé jusqu'au milliard, sur un certain nombre de fraudes. Bon, je pense qu'il peut y avoir des restrictions. Après, quand Banco, là, on te dit 100 000 fonctionnaires de moins, très bien. On veut faire toujours mieux, mais avec... Après, il a émis quelques petites idées qui vont peut-être parler à François, qui est élu dans une grande ville et avec la métropole. C'est de dire, ben, pour avoir les prix les plus intéressants, les communes se mettent ensemble. Comme ça, elles font des commandes qui leur reviennent moins chères parce qu'ils vont avoir le prix. Je me suis dit, bon, allez, ça c'est peut-être pipi de chat. Mais ça peut fonctionner. Mais d'un autre côté, ce sera une usine à gaz, parce que ça veut dire qu'il y aura du personnel qui va téléphoner à l'autre et qui va téléphoner, alors quand c'est la métropole...
Après, il faut le mettre en œuvre, évidemment,
voilà.
Hein, c'est toujours pareil.
Donc l'économie finale, je ne sais pas, mais on ne peut pas dire non à tout.
Alors, et sinon, sur parce que vous n'avez pas abordé la contribution exceptionnelle pour les Français les plus fortunés... Les entreprises, les grandes entreprises qui réalisent des profits importants et qui devraient participer, bon, ça c'est une idée. Après, il faut voir quelle forme ça pourra prendre.
Alors, elle n'est pas choquante, cette idée. On a pu voulu l'ISF, on a pu voulu... Alors, vous supprimez la taxe d'habitation, vous supprimez l'ISF, vous supprimez tout. Vous avez donné de l'argent, et là, il ne faut pas cracher dans la soupe, au moment du Covid. Sauf qu'après Covid, on n'a pas rétro-pédalé. On a continué. Donc, c'est sûr qu'à un moment, ça coince. Donc, moi, personnellement, ça ne me choque pas que l'on demande
un effort.
Alors, dans le temps, mais on sait bien que dans le temps, ça dure toujours plus. Mais voilà, on a supprimé l'ISF, on a supprimé un certain nombre de choses. C'est peut-être pas choquant. Moi, je préfère peut-être l'ISF que d'augmenter la TVA, qui touche tout le monde. Ouais, parce qu'on en avait parlé de ça. Mmh. On augmente la TVA, c'est plus... comment ils avaient osé dire que c'était égalitaire? Ah bah oui, mais c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on taxe un peu les plus riches. Bah, je suis désolée, il faut le dire.
Je vais donner la parole à ma gauche.
Je suppose qu'il ne va pas me contredire sur le dernier point.
Non, mais vous, François Briançon, est-ce que dans les propositions qu'a pu faire Michel Barnier, il y en a certaines qui trouvent grâce à vos yeux?
Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de propositions, effectivement, qui peuvent être intéressantes. Je pense que d'abord, il faut, avant de parler du volet proposition, poser le cadre. Le Premier ministre, il nous dit qu'il faut faire 60 milliards.
Milliards, oui. Millions, ce serait...
Ça serait trop simple. 60 milliards d'économies
oui.
Pour 2025, vous l'avez rappelé, Eric. Ça veut dire, très concrètement, il dit 20 millions, c'est l'impôt. 20 milliards, j'y tiens, oui. C'est l'impôt. 20 milliards, c'est l'État qui fait des réductions. Et 20 milliards, c'est la sécurité sociale et collectivités locales. Ça, déjà, c'est très mal engagé. Parce que rappelez-vous comment ça a été engagé par Bruno Le Maire et Thomas Cazeneuve, précédent gouvernement, en disant « si on en est là, c'est la faute des collectivités locales ». Ils annoncent d'ailleurs le chiffre de 16 milliards d'euros de déficit, alors que les comptes des collectivités, tout le monde le sait, ils doivent par définition être
équilibrés.
Sinon, la préfecture s'en mêle.
Voilà, et Françoise vient de le rappeler, le rapport de la Cour des comptes qui est tombé hier, disant 100 000 fonctionnaires de moins seraient nécessaires. Pourquoi 100 000? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 500? On n'en sait rien. Bon, voilà. Donc tout ça me paraît très très mal engagé. Les collectivités locales, on va se parler simplement, elles sont à l'os, hein.
Oui.
Les collectivités locales aujourd'hui, ça a été rappelé...
Il y en a beaucoup qui elles-mêmes cherchent aussi à faire des économies. Hein.
Elles cherchent de toute façon à rationaliser de tout temps leur fonctionnement. Et puis il faut parler très concrètement, c'est-à-dire que si on supprime 100 000 postes de fonctionnaires, 200 000, et si on va chercher une contribution de 20 milliards d'euros sur les collectivités locales, concrètement on fait quoi? On ferme des piscines, on ferme des théâtres, on ferme des centres de loisirs, on réduit le nombre de policiers municipaux, le nombre de pompiers.
A priori, il y a des conséquences.
Voilà. Donc,
ce serait grave s'il y avait 100 000 personnes en France
qui
ne travaillent pas peu.
C'est pour ça que ça me paraît mal engagé, et je me, même si le fin mot de l'histoire, c'est que d'une certaine façon, Michel Barnier ne demande pas aux élus de faire le sale boulot. C'est-à-dire le sale boulot, c'est d'aller réduire le service public. Alors, là-dessus, après, et après j'en viens au volet propositionnel, il y a aussi des propositions qui sont absolument scandaleuses. Ce qui a été proposé hier de faire des milliards d'économies, 4 milliards, je crois, c'est le chiffre exact,
oui.
Sur le dos des retraités. Alors, aujourd'hui, les statistiques sont tombés, je reprends mes notes parce que je ne connais pas les chiffres par cœur, mais pour un retraité célibataire qui toucherait une pension moyenne d'à peu près 1 500 €, le fait de reporter de 6 mois l'augmentation qui était prévue, ça représente 230 € sur les 6 premiers mois de l'année 2025. 230 € quand on en touche 1 500 tous les mois,
c'est
une somme, voilà, c'est pas du superflu, c'est pas le gras, hein. On est là aussi, on est à l'os. Donc je pense qu'il faut faire très très attention. Alors, la question, malgré tout, c'est comment on fait. On a une dette, et il faut effectivement...
Il faut trouver des pistes pour la réduire.
Alors, nous, on avait proposé avec le nouveau Front Populaire, et c'est une revendication ancienne, hein, de la gauche et notamment du Parti Socialiste, de rétablir un impôt solidarité sur la fortune. Lui, il parle d'une prime exceptionnelle pour les gens très fortunés, d'un impôt exceptionnel pendant quelques temps. Bon, allons jusqu'au bout, c'est-à-dire mettons en place une fiscalité qui soit une fiscalité qui amène à contribution des gens qui ont vu leur fortune exploser dans des taux ahurissants ces dernières années. Même chose sur les bénéfices des très grands, très très grandes entreprises. Puis il y a des sujets qu'on peut regarder de près. Prenez par exemple le sujet des niches fiscales. En France, je crois que c'est la Cour des comptes avait fait un rapport 460 ou 465 niches fiscales. Alors, dedans,
il y a de vrais virtuoses pour ça.
Voilà, il y en a qui sont absolument intéressantes. Je parle par exemple pour aider les gens, tout ce qui est emploi à domicile, etc. Ce sont des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Moi, je vais vous prendre deux exemples. Hein. La niche fiscale, je l'ai notée sur les armateurs français. Elle rapporte 5,6 milliards d'euros à l'État. Tout simplement parce que on les taxe non pas selon le régime de l'impôt, mais selon les marchandises qu'ils transportent. Donc là, il y a des choses à trouver. Les armateurs ne sont pas forcément les personnes les plus malheureuses dans notre pays. Un autre exemple qui est cité d'ailleurs sur tous les bancs politiques, c'est le fameux crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est 7,18 milliards d'euros en 2023. pour des résultats qui sont voilà, qui sont peu probants aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le dire. Donc il y a un certain nombre de pistes. Ce qui va manquer à ce gouvernement, on le voit déjà, c'est la volonté politique d'aller chercher l'argent là où il peut l'être et d'avoir la tentation de mettre ça sur le dos des Français, directement ou indirectement.
J'ai envie de rajouter, si tu me permets, rapport à la défiscalisation. C'est vrai qu'il y a les rois de la défiscalisation et on t'explique comment, etc. Donc toi, petit, ça te passe un peu au-dessus. Mais c'est vrai que ça fait des sommes énormes qui ne vont pas dans les caisses de l'État. Je suis complètement d'accord. On se retrouve... Alors, bon, je ne sais pas s'il faut défiscaliser. Ou... Comme tu dis, il y a des personnes qui ont besoin de cette défiscalisation sur du travail, justement, des personnes qui viennent travailler, qui viennent aider, l'aide à la personne. Ouais. Alors, on ne va pas supprimer ça. Mais il y a quand même les rois de la défiscalisation.
Ouais, et puis, tout ce qui... de l'optimisation fiscale.
Et puis, tout ce qui part par certaines entreprises à l'étranger. Parce que... bon, si on prend Total, hein, on ne va pas non plus pleurer sur Total, parce qu'on pourrait croire qu'ils n'ont pas une grosse imposition en France, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ailleurs, quoi. Donc, moi, je pense, par rapport à l'évaluation de certaines choses aussi, bon, le crédit impôt recherche, mais plein d'autres aides qui sont là depuis la nuit des temps, qui aident, et qui aident à quoi ? Et là, je suis complètement d'accord avec François.
Alors, on va parler d'un autre dossier, même de deux autres dossiers sur lesquels Michel Barnier était très attendu. C'est ceux de la maîtrise de l'immigration. J'utilise ce terme, je ne sais pas si c'est le bon. Et aussi sur la sécurité, le dossier de la sécurité, les mesures qu'il a annoncées dans ces domaines. Alors, je peux en lister quelques-unes. Hein. Restrictions de visa plus importantes pour certains pays. Il veut faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation irrégulière. Il a parlé, alors ça aussi c'est un serpent de mer, ça revient régulièrement, de construire vraiment de nouvelles places de prison. Et puis il y a aussi cette idée qui a été lancée d'atténuer l'excuse de minorité dans le cas de certains délits. Est-ce que tout ça, ça peut aller dans le bon sens? Est-ce que ça peut être efficace? Et est-ce que ça correspond aux préoccupations des Français dans ces domaines, selon vous? François Briançon, vous voulez peut-être vous exprimer en premier?
Oui, avec plaisir. Je ne suis pas sûr que... Alors, l'immigration en France est un sujet qu'on ne peut pas évacuer. C'est une réalité...
Une fois, je pense qu'il faut rappeler que l'immigration, c'est un phénomène.
Voilà, c'est un phénomène.
Après, la question, c'est comment on gère-t-on ce phénomène?
Tout à fait. Et le tort qu'a le débat politique depuis un certain nombre d'années, c'est ne pas essayer de comprendre ce phénomène et d'en régler les dysfonctionnements, mais de l'exploiter à des fins électorales. Et c'est encore une fois ce que fait d'ailleurs Michel Barnier, parce qu'il est habité par le fait de donner des gages avant tout à ceux qui lui permettent aujourd'hui de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire le Rassemblement national. D'ailleurs, la vraie question sur ce sujet, c'est qui parle finalement au nom de la France ? Est-ce que c'est le Premier ministre ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur ? Quand on entend Bruno Retailleau, et ça a été d'ailleurs dénoncé à la fois à la gauche, mais à la fois par une partie de la majorité relative qui soutient ce gouvernement, quand il dit l'immigration n'est pas une chance pour la France et il faut savoir dépasser l'état de droit. Un pays, j'ai noté, n'est pas un hall de gare, il a dit. C'est quand même très mal connaître la réalité de l'immigration. L'immigration, ce sont des populations qui sont poussées à l'exil. Il y a le caractère erratique de l'immigration sur le sol européen, les risques mortels que prennent les gens qui quittent leur pays. Enfin, voilà. Et c'est ignorer aussi la chaîne des raisons, c'est-à-dire que la chaîne des raisons, vous l'avez dit dans votre question, c'est notamment nos relations internationales et la façon, parce que dont les ressortissants de ces pays peuvent être accueillis. Donc moi, je pense qu'il faut aborder cette question avec beaucoup de sérieux. Et puis surtout, il y a une sorte de hiatus démocratique qui est assez intéressant, c'est-à-dire que les Français ont refusé le discours du Front National, du Rassemblement National, qui est aussi un discours anti-immigration et son instrumentalisation, qui va bien souvent d'ailleurs jusqu'à la xénophobie. Et il se retrouve avec un gouvernement et un ministre de l'Intérieur qui, à peine nommé, enclenche les mêmes sirènes. Donc le vrai sujet, c'est que en fait, on est en train de nourrir par un discours simpliste le Rassemblement national qui finalement fera miel de cette situation parce qu'il est en embuscade.
Alors, cela dit, le Rassemblement national a quand même réuni 11 millions d'électeurs au premier tour des législatives. Donc, il faut apporter des réponses sur ces sujets-là parce qu'on sait que les Français, beaucoup de Français, attendent des réponses. Est-ce qu'on traite ce sujet ? Vous, Françoise Laborde, qu'est-ce que vous avez pensé des propositions de Michel Barnier ?
Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, je rebondis juste. Bon, Retailleau, ça a été pour moi terrible, mais quand on a fréquenté les bancs du Sénat, on sait comment est cet homme, donc ça ne m'a pas étonné. Ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas étonné. Quand on voit Ciotti, enfin bon, les LR sont bien proches des autres. Donc ça, à un moment, ben, on va se rendre compte qu'ils sont très très collés et que certaines propositions du RN vont être validées par la droite LR. Bon. Après, par rapport à ce que dit François aussi, c'est qu'il y a, j'allais dire, moi j'ai entendu, à différents niveaux, plusieurs immigrations, parce qu'on accepte certains, bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler hein, sur cette antenne, l'Ukraine... Hein, tout le monde veut accueillir un Ukrainien. Pour le reste, c'est plus difficile. On a souvent fait l'abstraction, et ça va devenir de plus en plus vrai, c'est l'immigration climatique. On accueille aussi des personnes où on ne les accueille pas, mais enfin, il va bien falloir faire un certain nombre de choix. On ne peut pas laisser en dehors de nos pays des personnes qui subissent le climat, etc. Donc là, on a... Ah bah oui, mais ceux-là, on les veut bien, ceux-là, on les veut pas, etc. Et puis, les médias ont aussi quand même... Bon, hein, on remue, comme par hasard, c'est celui qui aurait pas dû être là, qui a tué Philippine, et on le répète, et on le répète, et on le répète. Bon, on rentre dans une xénophobie, on rentre dans une peur, alors que peut-être on répétera pas autant que le gentil petit qui est bien français a tué quelqu'un d'autre, et on n'en fait pas autant. Quand je dis ça, je respecte la famille de Philippine, je respecte toutes les familles et toutes les familles en souffrance. Ça peut être nous demain, un enfant, un proche, bon. Donc je ne rentre pas dans une polémique sur laquelle je ne veux pas rentrer. Mais, voilà. Donc l'immigration, eh ben, il va avoir beaucoup de mal à se dépêtrer, parce que si on veut classer les immigrés, ça ne va pas le faire. En revanche, qu'on soit un peu plus attentif à qui doit repartir, ça ne me choque pas. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir qu'il y a des voyous. Mais des voyous, il y en a partout.
Oui, mais il faut rappeler concernant cette tragique affaire Philippine que ce qui a aussi beaucoup choqué les Français, et ce n'est pas la première fois que ça arrive malheureusement, c'est que c'était quelqu'un qui était sous OQTF, qui n'aurait plus dû être là.
Mais je l'entends, mais il y a aussi des meurtres et des viols, etc., qui sont...
bien entendu.
Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Alors, s'il a la solution, si... grâce à cette énième tragédie, on renvoie les gens qui doivent être renvoyés. Moi, je veux bien. Mais est-ce qu'il va y arriver mieux que ses prédécesseurs ? On parle quand même de ça depuis un certain Manuel Valls. Hein, moi, j'y étais dans l'hémicycle quand il a essayé aussi. Donc, il faut, oui, sûrement... trouver des solutions, mais on ne peut pas dire qu'on est contre tout le temps.
L'atténuation de l'excuse de minorité, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, effectivement ? Il faut aller vers ça ? Enfin, est-ce que ça peut avoir des effets ? C'est surtout ça la question.
Voilà, je ne sais pas si ça peut avoir des effets. Après, il y a des actes qui sont tellement horribles que je veux dire... Alors, soit ils les ont fait parce qu'ils sont mineurs et qu'ils n'ont pas de plomb dans la cervelle. Non, ça ne peut pas être une excuse. Enfin, là, moi, je crois que c'est du cas par cas. Mais l'excuse de la minorité automatique laisse peut-être à désirer.
Alors, Pierre Esplugas est arrivé entre-temps. Bonsoir.
Je vous présente mes plus sincères excuses, cher Eric, aux auditeurs et également aux
Vous avez été excusé, j'ai annoncé que vous arriveriez en retard. Vous m'aviez prévenu, donc il n'y a pas de problème. Alors, on était en train de parler de L'un des aspects de l'intervention du discours de politique générale de Michel Barnier, celui qui concerne l'immigration, la maîtrise de l'immigration et la sécurité. Donc il a annoncé un certain nombre de mesures dans ces domaines, je vais les rappeler, restrictions de visa plus importantes pour certains pays, il veut faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation régulière, il a parlé de construire vraiment, cette fois-ci, deux nouvelles places de prison, et il a parlé effectivement de cette atténuation de l'excuse de minorité. Est-ce que pour vous, dans tout ce qu'il a proposé, dans ces deux domaines, il y a des mesures qui vont dans le bon sens, qui sont efficaces et qui correspondent aux préoccupations des Français.
Alors, je veux bien vous répondre sur ce point. Hein. J'appartiens à un parti qui, clairement, fait de l'autorité de ses piliers. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a dans ce pays un défaut d'autorité. Et donc, sans doute, dans l'exécution des décisions administratives de reconduite à la frontière, dans l'exécution des décisions de justice, y a-t-il mieux à faire ? Il est absolument anormal que des décisions de justice ne soient pas correctement exécutées. Mais comme j'arrive à 19h30 et je vous renouvelle vraiment mes excuses, si vous le permettez, cher Eric, j'aimerais bien revenir en arrière et faire deux remarques. Sur la déclaration de politique générale de Michel Barnier, l'une en tant que politique, l'autre en tant que constitutionnaliste. Ma remarque en tant que politique. Finalement, j'ai été plutôt heureux de voir à la tribune de l'Assemblée nationale et du Sénat, mercredi et jeudi, Michel Barnier, car, pour parodier le sénateur Claude Malhuret, cela veut dire que nous avons échappé à Lucie Castet. J'avais déjà eu l'occasion de le dire de manière un peu théâtrale à François Briançon en conseil municipal, de manière beaucoup plus conviviale en privé, car nous nous apprécions tous les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de fond entre le Parti socialiste et une partie de la droite à laquelle j'appartiens, qui est que oui, nous considérons comme dangereux le Rassemblement national, mais nous considérons comme tout aussi dangereux la France insoumise. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas qu'un parti de gauche modéré, que des gens intelligents comme François Briançon qui représente le Parti socialiste en Haute-Garonne, ou comme François de Laborde également, puisque le Parti radical de gauche n'a pas dénoncé cet accord avec la France insoumise. Et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt content que, effectivement, ce soit Michel Barnier à la place de Lucie Castet. Car si, effectivement, la France insoumise est le parti qui est arrivé en tête, c'est factuel, ben, on sait dans quelles conditions ils sont arrivés en tête, c'était aussi pour faire barrage au Rassemblement national, et à l'arrivée, ça ne fait pas une majorité pour gouverner, puisque si l'ensemble des opposants se liguent contre Lucie Castet et la France insoumise, eh bien, le gouvernement n'aurait pas tenu, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne l'a pas nommé. Une remarque de constitutionnaliste. Beaucoup de gouvernements, c'est vrai, après leur discours de politique générale, n'ont pas demandé un vote. Mais on peut le comprendre lorsque la formation de ce gouvernement intervient après une élection présidentielle, parce qu'il y a une légitimité qui est la suite de l'élection présidentielle. On sait très bien qu'en période dite de cohabitation, ça a été le cas pour les trois dernières cohabitations, les différents gouvernements, on le sait, hein, Jospin, Balladur, Chirac, ont demandé un vote d'investiture.
Un vote de confiance.
Un vote de confiance. J'avoue que, oui, parce que je sais que l'investiture n'existe plus depuis la Troisième République, je ne veux pas rentrer dans les détails.
Pour que les gens, bref, voilà, comprennent bien.
Mais ça me perturbe un petit peu. J'en comprends les raisons politiques, hein, que Michel Barnier n'ait pas demandé ce vote. Mais j'avoue que ça perturbe un petit peu le constitutionniste que je suis, que cette déclaration de politique générale ne soit pas suivie d'un vote. Je le redis, j'en comprends les raisons politiques. Ça pose un problème de fonctionnement des institutions qui me perturbe.
Alors, allez-y,
quand même, François, je reprends juste parce que... je ne suis plus radicale de gauche, mais radicale tout court.
J'ai failli le préciser, je vous laisse le
faire. Mais ce n'est pas grave. Je n'aurais pas fait la remarque si les radicaux de gauche, qui restent mes amis et ma famille d'origine, ne font pas partie du nouveau Front populaire. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas unis, parce qu'ils ne voulaient pas soutenir LFI. Et donc, Lucie Castet, ce n'est pas leur tasse de thé. Voilà, je voulais quand même le redire, parce que certains...
Françoise, je vous en félicite.
Voilà.
Pierre Espligas, juste sur le sujet de l'immigration, là, c'est très bien que vous soyez revenu sur la déclaration de manière générale, sur le discours de politique générale de Michel Barnier.
Surtout,
sur
j'ai un peu taclé
sur le sujet de l'immigration, sur ce qu'il a proposé. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, pourraient vraiment être efficaces? Par exemple, vous êtes professeur de droit, l'atténuation de l'excuse de minorité, vous pensez que c'est une idée...
Françoise dit qu'elle a taclé les LR, mais Éric Ciotti n'appartient plus au LR.
Oui, c'est vrai.
Deuxièmement, je ne me reconnais pas dans la ligne d'Éric Ciotti. je ne me sens pas solidaire du tout de ses propos ou de ses pensées. Moi, j'appartiens à ce que je qualifierais le camp de la droite modérée, voilà, de la droite libérale, européenne, modérée, partisan de l'État social, mais tout en étant libéral. Bon, voilà un petit peu mon terreau idéologique. Quant à l'atténuation de l'excuse de minorité, ben oui, moi, ça ne me choque pas, sincèrement, parce que autant on peut comprendre l'idéal de 1946, puisque de post-après-guerre, ça vient de cette ordonnance-là. Mais aujourd'hui, on peut très bien être un dangereux criminel en ayant un âge inférieur à 18 ans, en ayant 16 ans, 17 ans. Et il faut
on mettre a malheureusement souvent des illustrations et des exemples.
Et il faut mettre des barrières un petit peu solides. Et aujourd'hui, il y a une forme, de mon point de vue, mais on peut ne pas le partager, mais c'est mon point de vue, une forme d'angélisme à ce qui est appliqué de manière un peu automatique, cette excuse de minorité. Donc oui, ça ne me choque pas si on revient sur ce point-là.
Juste pour terminer sur le premier sujet, dans le domaine sociétal, alors, il y avait pas mal de sujets d'inquiétude à gauche. Le Premier ministre a indiqué qu'il n'y aurait aucune remise en cause à venir du droit à l'IVG ou du mariage pour tous, ni non plus de la PMA pour toutes. Il a souhaité une reprise du dialogue sur le projet de loi sur la fin de vie. Alors, est-ce que ça vous a rassuré, vous, François Briançon, en tant qu'homme de gauche? Parce que, encore une fois, il y avait pas mal d'inquiétudes dans votre camp sur ces sujets-là.
Ce qui m'a déjà surpris, c'est que dans ses déclarations récentes, le Premier ministre a senti le besoin de repréciser qu'il ne toucherait pas à l'IVG et au mariage pour tous. On vit dans un drôle de pays quand même, où en 2024,
parce qu'il avait été interpellé,
un Premier ministre est obligé de rassurer les Français sur deux lois qui sont des lois essentielles, qui sont pour les deux nés dans la difficulté, mais qui sont maintenant largement approuvés, au-delà d'ailleurs des opinions politiques des uns et des autres, et même des positionnements au débat du débat public, qu'on sente le besoin de réaffirmer qu'on n'y touchera pas, je trouve que c'est un signe d'inquiétude. Alors là, c'est vraiment old school, pour reprendre votre expression de tout à l'heure. Je trouve qu'on vit dans un drôle de pays, au moment où il y a tant de femmes, notamment, qui aspirent à trouver des droits essentiels que l'on a, être obligés, nous, de réaffirmer ça. Dans ce pays, j'ai trouvé ça assez bizarre. Au-delà de ça, alors, sur la question de fond qui est celui sur la fin de vie, une vraie inquiétude, c'est-à-dire, et d'ailleurs, elle a été, et j'approuve complètement sa déclaration, levée par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pourquoi recommencer un débat? Ce que nous a dit Michel Barnier, c'est sur ce dossier grave, les opinions étaient partagées. Je ne suis pas si sûr. Quand on regarde les sondages, une très large majorité de Français sont tout à fait favorables à une législation sur la fin de vie, dont il faut déterminer, bien sûr, les contours. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est reprendre le débat comme si le débat n'avait pas débuté. C'est ce que lui a rappelé la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a un projet de loi qui existe. Il faut reprendre le débat sur ce projet de loi qui était déjà entamé, qui a été arrêté par la dissolution. Donc moi, je pense que sur ce sujet, il ne faut pas perdre de temps et il faut reprendre le travail législatif là où il avait été arrêté.
Alors, Pierre Espugas.
Oui, d'accord avec François. Il y avait effectivement, il ne faut pas être buté, il y a des textes de loi qui transcendent les clivages classiques, pour faire très court, les clivages droite-gauche, et ça en est un, le texte de loi sur la fin de vie. Et donc, on pouvait regretter que certains projets de loi, mais je pense que je vais en citer un deuxième, dont celui-là, soient en fin de vie, en quelque sorte. Et donc, il est plutôt bien que ce malheur qui a été la dissolution, parce que je suis pas convaincu que c'était une bonne chose, que certains textes pour lesquels un travail avait été fait, ce travail soit continué et prolongé. Mais il y a un autre texte pour lequel un travail avait été fait, et pardonnez-moi, je sais que ça intéresse peu les Toulousains, ça intéresse peu les Français, et pourtant c'est essentiel, et qui est abandonné, c'est le projet de loi sur le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi si vous permettez d'explication.
Oui, il en a parlé.
Puisque on connaît tous le contexte dans lequel ce gel du corps électoral, en plusieurs temps d'ailleurs, en deux temps, 99 et en 2007, est intervenu, c'est-à-dire qu'il fallait éviter que des instituteurs de passage, des policiers de passage, des gens qui font du tourisme, aient le même poids que des gens qui soient nés là-bas de souche. Donc on pouvait en comprendre la logique, mais on avait fixé une condition de résidence de 10 ans. Sauf que, en 2007, on a gelé cette condition de résidence au 1er janvier 1998. Ce qui fait que ce n'est pas 10 ans, mais ça peut être maintenant 20 ans de condition de résidence, 25 ans. Je suis désolé, on est dans un pays où le suffrage est universel, et le suffrage n'est pas universel si il y a une condition de résidence excessive qui se compte en dizaines d'années. Alors là aussi, j'en comprends la portée politique. Je vois bien que il y a des coups à prendre avec des émeutes possibles en Nouvelle-Calédonie, et que là, ça apaise les tensions. Je sais tout ça, mais pardonnez-moi, le juriste encore que je suis, qui enseigne le suffrage universel, ça lui pose un problème qu'on fixe une condition de résidence qui me paraît déraisonnable, au sens notamment de la Convention européenne des droits de l'homme.
Françoise Laborde.
Alors moi, j'ai retenu en effet qu'on parlait de Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai que c'est moins mon sujet, et je te remercie de l'avoir bien posé. Sur le reste, on a donc les journalistes ou des parlementaires ont reproché à Michel Barnier d'avoir été contre le mariage pour tous. Donc c'est normal quelque part qu'il s'exprime. Ensuite, comme on lui reproche d'être très très près du RN, on peut avoir peur par rapport à l'IVG, un certain nombre de choses. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'il ait explicité et qu'il ait dit qu'on n'y touchait plus, parce que pour moi, ce sont des lois de droit, hein, comme on dit. Les lois sont censées être appliquées par tous, et il y a quelques lois, on a la chance encore dans notre pays, parce qu'on a encore une liberté d'expression et de choix, d'avoir la contraception, d'avoir l'IVG, d'avoir le mariage pour tous. C'est pas parce que c'est voté qu'on va y aller immédiatement. Hein, c'est un choix. Et ça, je trouve ça formidable, et c'est pour ça que je suis contente qu'on reparle de la fin de vie, mais je suis complètement d'accord, il faut en reparler et reprendre le sujet là
où ça s'est arrêté.
Il y a eu un travail phénoménal de fait avec les associations, les médecins, etc.
La Convention citoyenne.
Et la Convention citoyenne, on ne va pas repartir de zéro. Ou alors c'est n'importe quoi. Voilà. Mais moi, ça ne m'a pas choqué qu'il se soit justifié, parce qu'on l'attendait au tournant.
François, si tu permets, et sans prendre de temps de parole sur François, tu dis Michel Barnier est proche du RN. Non. Il n'a jamais été proche du RN. En revanche, la situation politique dans laquelle il est aujourd'hui fait que sa durée de vie tient à un vote de confiance ou de censure du RN.
C'est pour ça.
Ce qui ne veut pas dire, si je peux me permettre, que idéologiquement, il est proche du RN. Il y a une nuance.
Oui, mais il a donné un peu à tout le monde. C'est-à-dire que, voilà.
On va arrêter là pour ce sujet. La prochaine étape pour Michel Barnier, ce sera la présentation du budget. Peut-être que ça peut vouloir dire effectivement qu'il reste ou qu'il ne reste pas. Donc la présentation du budget 2025 la semaine prochaine. Le parcours du combattant continue pour le Premier ministre. Quant à nous, nous allons nous accorder une courte pause dans cette émission. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct en compagnie de mes trois invités, Françoise Laborde, François Briançon et Pierre Esplugas. Notre pays est confronté à une situation politique intérieure aussi compliquée qu'inédite, mais pendant ce temps-là, le conflit s'intensifie au Proche-Orient, où l'Iran a lancé, comme vous le savez, des missiles sur Israël, après que l'État hébreu a éliminé plusieurs dirigeants du Hezbollah au Liban, dont son chef Hassan Nasrallah. Selon vous, quelle peut ou doit être l'attitude de la France dans une région où elle a longtemps joué un rôle d'équilibre, où vivent de nombreux ressortissants français et où 700 de nos soldats, je le rappelle, sont impliqués au sein de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban? François Briançon, votre avis sur cette délicate question?
C'est le mot, c'est une question délicate. Alors, lorsqu'on parle tout d'abord de situation internationale, je pense qu'il ne faut pas oublier également la situation en Ukraine, qui est très préoccupante.
Le fond de l'Est, oui.
Sur la situation au Proche-Orient, puisque vous nous invitez à en parler en toute humilité, parce que c'est effectivement un sujet qui est très complexe. D'un côté, on a le plus grand pogrom qui a été organisé depuis la Shoah. On va fêter d'ailleurs ce triste anniversaire dimanche. Je crois que c'est dimanche.
On va commémorer effectivement
le 7 octobre.
Lundi. C'est lundi.
C'est lundi. Il y a un rassemblement à Toulouse d'ailleurs ce dimanche, c'est ça, le 6. Et de notre côté, on a un massacre organisé par un gouvernement israélien. Et je fais la nuance entre le gouvernement et l'État, bien sûr, de Gaza, et puis aujourd'hui les attaques sur le Liban. Moi, je crois que le plus important, c'est d'obtenir très rapidement un cessez-le-feu et de remettre tout le monde autour de la table de discussion avec la perspective de deux États qui puissent cohabiter dans la paix. C'est en tout cas le souhait des populations et je pense qu'il faut arrêter cette escalade qui n'a pas d'issue, si vous voulez. Ça fait 75 ans que la situation est dramatique dans cette région. Et je pense que maintenant, il est temps d'en sortir parce que la violence n'amènera que la violence. Donc il faut chercher effectivement les voies de la paix le plus rapidement possible.
Alors je vais juste préciser qu'il y a un conseil de défense réuni mardi soir par Emmanuel Macron et il a décidé de mobiliser les moyens militaires de la France pour parer la menace iranienne. Il a appelé tous les acteurs impliqués dans le conflit à faire preuve de la plus grande retenue. Bon, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on sera tous d'accord. Pierre Esplugas, qu'est-ce que vous pensez que la France, la voix de la France et donc Emmanuel Macron, peut faire dans la situation actuelle? C'est une région où on a toujours joué un rôle et on est évidemment très lié au Liban.
Non, mais je ne suis pas embarrassé pour répondre à cette question parce que je vais être fatalement appelé à dire des banalités. Une fois que je vous aurais dit que ce conflit existe depuis 1948, qu'on ne va pas le résoudre au micro de Radio Présence et qu'il faut préserver les intérêts légitimes et du peuple juif et de la communauté palestinienne et arabe, j'ai pas trop avancé, on est tous d'accord. Que si vous voulez me faire dire que effectivement pour préserver ses intérêts, il faille sans doute deux États, j'en suis assez convaincu. Je partage ce point de vue certainement avec Françoise et avec François Briançon. Maintenant, ce qui m'inquiète plus en réalité, parce que je n'ai pas de prise à ce micro, vous comprenez bien, sur la situation au Proche-Orient, ce qui m'inquiète un peu, c'est le transfert des tensions, qui existent au Proche-Orient, en France, sur le sol français. C'est ça qui m'inquiète et que je ressens tous les jours. Et notre responsabilité, clairement, de politique, et de ce point de vue-là, d'apaiser les tensions et d'être sensible, d'être à l'écoute des deux. J'aime pas le terme communauté, parce que j'ai cette philosophie, moi aussi, comme vous, universaliste. Mais allez, je vais l'employer. Donc, être à l'écoute des deux communautés, la communauté juive de Toulouse et la communauté, je ne sais pas si elle est palestinienne, mais on va dire arabe plus largement.
En tout cas, il y a une communauté libanaise à Toulouse.
Oui,
et la communauté libanaise.
C'est très vrai. Pardon de revenir un petit peu de politique politicienne, j'ai tendance à penser qu'un groupe politique au sein du conseil municipal de Toulouse, le groupe LFI pour le citer, n'est pas dans cet apaisement et a pris ouvertement parti pour un camp et ça me gêne.
Alors, Françoise Laborde.
Alors, je partage complètement parce que c'est vrai que en tant que Françoise Laborde, je n'irai pas tellement au-delà des banalités parce que je n'ai pas de poids ni dans la diplomatie, je n'étais pas au conseil de défense et de sécurité. Donc là-dessus, on est complètement d'accord. En revanche, c'est vrai qu'on voit que les actes antisémites ont augmenté. On voit que des prises de parole qui n'ont pas lieu d'être, parce que là, c'est là où je suis d'accord avec toi, Pierre, on met de l'huile sur le feu, alors que nous ne sommes pas là-bas. On voit qu'il y a Israël, l'État et le gouvernement, ce qui n'est pas tout à fait pareil, tu as raison, François. On voit qu'il y a les Gazaouis, mais il y a le Hamas. On voit aujourd'hui qu'il y a les Libanais, mais le Hezbollah. Donc on se retrouve avec, on marche sur des œufs, enfin surtout vu de Toulouse où on est encore un peu protégé. Mais justement, les uns et les autres mettent de l'huile sur le feu. Et là, j'ai envie de revenir à mon rôle de parlementaire. Moi, je suis allée en Israël quand j'étais sénatrice, je suis allée en Égypte, je suis allée en Jordanie, je suis allée en Cisjordanie. J'en ai pas rempli mon Facebook, j'ai pas ameuté les foules, j'ai fermé ma bouche en me disant que le peu que je pouvais voir et faire en étant parlementaire, donc diplomate, parce qu'on est normalement des diplomates, on doit aider à notre niveau le Quai d'Orsay et les affaires étrangères. On n'est pas là pour brandir des drapeaux à l'Assemblée nationale et à l'ouvrir alors qu'on n'y connaît rien. Voilà, donc là-dessus, c'était mon petit coup de gueule, parce que je pense qu'en effet, ce sont déjà des sujets très compliqués. Moi aussi, je serais d'accord pour avoir un État israélien, un État palestinien, ça réglerait peut-être un certain nombre de problèmes.
On en parle depuis tellement longtemps. Est-ce que ça résoudrait tout?
On n'est pas sûr, puisqu'il y a un État libanais, et que ça ne règle pas tout, puisque au Liban, il y a le Hezbollah. Sauf qu'on a quand même des relations très privilégiées aussi avec le Liban. Le nombre de franco-libanais. Donc c'est vrai que le président Macron a dit on va mettre un bateau pour être prêt à contrecarrer. Je ne sais pas ce qu'on pourra contrecarrer.
S'interposer, mettons. Voilà. Bon, admettons.
Je ne sais pas ce qu'on pourra faire, mais peut-être ça aidera à évacuer. Bon, parce qu'on ne va pas participer à mettre un pied pour dire ben, on déclare la guerre à l'Iran.
Je voulais dire, oui.
Voilà. Mais je pense qu'en effet, beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien feraient bien de fermer leur bouche.
Oui.
Ça ne réglera pas les problèmes, hein, mais ça n'en rajoutera pas.
François Briançon, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être?
Oui, c'est vrai que le danger de ce type de conflit, on le voit effectivement, malheureusement, dans des incidents, voire même des agressions, voire même des crimes. C'est l'importation, effectivement, voilà. sur notre sol. Et moi, je crois que la responsabilité des politiques, elle est immense. C'est-à-dire que, là encore, on parlait tout à l'heure des dossiers de l'immigration, et je disais, prenons attache pour faire en sorte que ces dossiers ils soient résolus et non pas exploités. Et je pense que les tensions internationales, elles doivent être résolues dans un autre cadre, bien sûr, que d'un cadre local. Mais elles ne doivent surtout pas être exploitées électoralement. Parce qu'on va chercher quoi? On va chercher derrière ça des supposées clientèles liées à des origines, liées à des religions, liées à des pratiques X ou Y. Moi, j'ai appris une chose en politique depuis que j'en fais, c'est que les votes communautaristes, ça existe très peu. Moi, je connais qu'un seul vote, c'est le vote républicain. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que les politiques, quels qu'ils soient, sur tous les bords, alimentent effectivement cette tentation, parce qu'elle est néfaste pour la cohésion nationale. Moi, j'avais pris l'initiative, Pierre s'en rappelle, au lendemain du 7 octobre l'année dernière, de proposer un grand rassemblement en place du Capitole et l'ensemble des partis politiques et des élus y avait participé. Et je crois que c'est ça. C'est-à-dire que la représentation locale, c'est-à-dire la représentation locale politique, elle doit donner l'exemple. Et moi, sur ce sujet, c'est effectivement ma ligne de conduite. N'importons pas des conflits qui n'ont pas de justification locale sur le sol national, parce que c'est porter une vraie atteinte à nos valeurs républicaines.
Affaire à suivre, elle est très complexe, on l'a dit, donc on ne va pas prolonger, on verra ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent. Toujours est-il que, évidemment, ce qui se passe au Proche-Orient est de plus en plus inquiétant, ça va sans dire. Il nous reste un tout petit peu de temps pour vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait cette petite rubrique dans l'émission. Pierre Esplugas, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur à partager avec nous?
Les deux. Mon coup de cœur, c'est le moment qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on appartient à trois partis différents. On se parle tranquillement, sans s'interrompre, paisiblement. On peut être d'accord, dans les sujets où je crois qu'on a la même ligne, et sur d'autres sujets, on n'a pas la même ligne, et c'est très bien ainsi, c'est un peu mon coup de cœur, et merci à Radio Présence de permettre de parler avec du temps, et sans être interrompu. Ça, c'est mon coup de cœur, et de manière beaucoup plus anecdotique, mon coup de gueule. J'ai vraiment râlé devant ma télévision dimanche soir, lorsque Statouzin a perdu devant l'Aigle, parce qu'on avait largement les moyens de gagner, on a fait trop de fautes devant la ligne, d'enfoncer les Bordelais ne m'aurait pas déplu. Donc, c'est un peu mon coup de gueule de dimanche soir.
Bonsoir à tous les Bordelais qui nous écoutent. François voilà. Laborde.
Oui, j'aurais pas pensé au Stade Toulousain, mais oui. Moi, je voulais juste partager, alors, ces coups de gueule, coups de cœur, donc, c'est factuel. On est le 3 octobre.
Oui.
Donc, on a démarré à fond sur Octobre Rose. Et c'est vrai que moi, bien sûr, le cancer du sein, ça concerne toutes les femmes et on ne le redira jamais assez. Vous qui nous écoutez, faites les dépistages, etc. Sauf que il y a des fois des temps d'attente énormes pour aller se faire faire les examens, mammographie et compagnie. Donc nous, on a encore un peu de chance en ville, mais ce n'est pas le cas partout. Mais je voulais aussi dire que donc en novembre, c'est la prostate, les moustaches. Mais on a oublié un peu, et moi qui le suis de très près, eh bien oui, messieurs, voilà.
Je suis concernée.
Voilà. Il faut... Moi, j'ai beaucoup suivi aussi Septembre en or. Ce sont les cancers pédiatriques. Oui. Et je trouve que c'est un petit peu passé sous silence. Voilà, je sais qu'il y a eu des petits litiges ici ou là, même pour en parler. Moi, j'en ai beaucoup parlé. En général, sur Facebook, je ne fais pas trop de politique. Vous savez que je suis monophasée, donc très laïcité, très éducation, mais je ne fais pas trop de politique. Et je fais aussi Septembre Noir, Octobre Rose, etc. Parce que je pense qu'on se doit de participer à un certain nombre d'événements et de solliciter toutes les personnes qui peuvent être aidantes à se faire dépister, aider, etc. Voilà.
François Briançon, vous avez une petite minute à peine.
Alors, allez, deux coups de cœur locaux. Le premier, c'est le nouvel album de mon ami Magid Cherfi qui vient de sortir, qui est absolument magnifique. Je recommande à tout le monde d'écouter.
On l'a déjà reçu à Radio-Canada.
Voilà, c'est vraiment Magid. Bon, c'est un homme engagé, mais c'est surtout un grand écrivain, un grand poète, et vraiment ce disque est bien. Et puis, je crois qu'on peut y aller jusqu'à la fin novembre, l'Expo Marilyn, qui est superbe.
Ah oui, qui continue.
Je parle sous couvert du spécialiste des musées.
Oui, oui, non, mais c'est, en plus, ce n'est pas une Expo Mairie de Toulouse,
c'est
une exposition.
C'est au BADEF, oui. Et magnifique expo, et je pense qu'il faut, il faut en profiter, reste un petit mois, un mois et demi, il faut vraiment aller la voir.
On en avait parlé aussi sur Radio Présence lors d'une matinale où était venue la personne qui a conçu cette très belle exposition, donc c'est à l'espace Bazac, le EDF.
Je ne sais pas encore.
Eh bien, merci d'avoir rappelé effectivement ce bel événement. Ce 164e numéro de la Mêlée de l'Info est terminé. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé et débattu dans les règles, comme le faisait remarquer Pierre Esplugas. Merci aussi à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous qui nous écoutez fidèlement. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un très bon week-end.
Merci.